Bonjour, avec Fabrice Collin, aux 10e édition des Utopiales, samedi d'Halloween.
Bonjour.
On va parler des vampires de Londres, des premiers tomes de la série Les étranges sœurs Wilcox, paru chez Gallimard Jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cet ouvrage ?
Alors effectivement, c'est un premier tome d'une histoire qui devrait en compter. Ça se fait de façon assez instinctive. Je pense maîtriser un peu plusieurs niveaux de langage et je sais à peu près où est-ce que je dois m'arrêter. Il y a une exigence de lisibilité pour les lecteurs. On part du principe qu'on peut être lu par quelqu'un de 12 ans, donc ça implique de rentrer assez rapidement dans le vif du sujet, d'éviter des digressions trop longues, d'éviter des mots compliqués juste pour faire le malin, etc. Maintenant, si j'ai un mot qui veut dire ce que j'ai envie de dire et qu'il n'y en a pas d'autre, je vais l'utiliser. J'ai pas envie de niveler par le bas, au contraire. Je préfère, s'il y a des gamines de 11 ans qui veulent lire le livre, je vais pas les décourager, même si je sais qu'elles peuvent bloquer sur 2-3 trucs, parce que c'est toujours mieux de se frotter à quelque chose qui est un peu plus élevé que le contraire. Donc pareil, au niveau de la structure, on essaie d'adopter des structures qui sont à peu près linéaires. On peut entremêler plusieurs récits, etc. Mais on essaie quand même de faire simple. L'idée, c'est que le lecteur ou l'actrice décroche pas. Et puis au niveau des thématiques, en fait, sur ce livre précisément, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on parle d'une société secrète qui a réellement existé, qui s'appelle la Golden Dawn. Dans ma première version, j'avais beaucoup plus de références à cette société, et notamment à ses rituels. J'étais rentré beaucoup plus dans le détail des rituels, en m'inspirant de choses vraiment... réel, de documents de cette société. Et là, avec l'éditeur, on en a discuté, et on s'est dit que bon, on pouvait enlever ces références-là parce qu'elles ajoutent rien au récit ou à l'intrigue. Par contre, elles complexifient un peu, alors elles donnent un sentiment d'étrangeté qui peut être sympa pour un type de lectorat, mais quelqu'un de 11 ans ou 12 ans qui lit ce passage-là, déjà, il comprend pas à quoi ça sert, et il peut être perdu, parce que là, il y a vraiment un vocabulaire et des rituels assez étranges. Ça, c'est l'exemple de choses qu'on a sabrées pour rendre le livre accessible à un plus jeune lectorat. Mais c'est la seule concession qui a été faite.
Oui, parce qu'au niveau de l'écriture, c'est quand même, je répète, un langage qui est soutenu, qui n'est pas du tout livelé par le bas. Et puis au niveau de la narration, enfin du récit, il y a des choses qui sont osées. Avec certains personnages, vous n'hésitez pas à décrire ce qui se passe au niveau des décès, notamment, c'est pas édulcoré, enfin pas trop en tout cas, donc ça marche pour tous.
La seule chose qu'on se permet pas trop en littérature jeunesse, c'est ce qui touche au sexe. Et puis évidemment la violence, mais bon, je n'ai pas forcément porté vers la violence à outrance non plus. On peut trouver beaucoup de choses dans un livre jeunesse, je discutais encore de ça avec un ami tout à l'heure, il y a des livres pour la jeunesse avec des scènes très dures, mais les jeunes lecteurs peuvent avaler ça. C'est pas trop un problème. Ils font la différence. Moi, je fais vraiment confiance à l'intelligence du lecteur et surtout de l'ado. Aussi parce que j'en vois plein. Je vais dans les collèges pour parler des livres et tout ça. Et donc, je pense avoir une idée assez précise de ce qu'est quelqu'un qui a 12-13 ans. C'est-à-dire le moment où on peut commencer à lire mes livres. Un ado peut être inhibé, avoir plein de problèmes, de complexes, peut être un peu bébête par certains endroits, mais face à un livre, il a une intelligence qui est déjà formée. Tout ce qui lui manque, c'est une expérience de certains procédés littéraires. Et encore une fois, si je veux faire un livre sur l'éducation sexuelle, je ferai ce livre-là, mais j'estime que c'est pas la place dans un roman. Dans un roman jeunesse, de même que ce serait pas la place de parler de façon complexe de sociopolitique ou de choses comme ça. Voilà, ça risque pas dans un monde de vampires.
Donc c'est un livre qui traite d'un autre monde, on est d'accord. Donc que pensez-vous de cette édition des Utopiales ?
J'ai pas le temps d'en penser grand-chose en fait. On arrive dans les... Moi je suis invité aux Utopiales, ça fait 8 ans. Il y a des fois je sais même pas ce que c'est le thème. Bon, simplement là, les mondes meilleurs, je pense que voilà, peut-être ça tombe un peu à pic par rapport à l'année difficile qu'on a vécue de façon générale dans le monde. Et de la thématique éternelle du refuge dans la fiction. Bon, moi je suis quelqu'un d'assez positif et optimiste, donc le monde meilleur, je prends pas ça. On va pas se planquer dans les livres pour échapper au monde réel, mais on peut trouver dans le monde réel des matières à alimenter nos livres. De façon générale, c'est une thématique, c'est assez rigolo parce que en fait, moi ma théorie, c'est que on décrit très rarement des mondes meilleurs justement en littérature et notamment en jeunesse. On écrit toujours des choses pires que la réalité, contrairement à ce qu'on pourrait penser intuitivement. Les enfants, moi je sais, j'en ai quand on leur lit des histoires. Enfin, plus c'est horrible, plus ils sont contents parce que c'est une façon de se dire, je vis pas dans ce monde-là. Pourquoi il y a énormément d'histoires où il y a des enfants, c'est le cas d'Harry Potter, mais ça n'a vraiment pas été inventé là, qui sont battus ou maltraités par leur méchante tante ou des choses comme ça. C'est quand même pour rappeler aux enfants que leurs parents, eux, sont là et ils sont pas comme ça, même s'ils sont un peu chiants parfois. Et de façon plus générale, une histoire, c'est l'histoire d'un conflit. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose qui se passe mal, sinon il n'y a pas d'histoire. Si on parle de monde meilleur que le nôtre, c'est pas forcément très très difficile à imaginer, mais ça va être dans le cadre d'un univers de science-fiction, par exemple, pour décrire le grain de sable dans le rouage, ou comment un monde meilleur, qu'est-ce qui va ruiner la mécanique, quelle est l'ombre au tableau, quel est le cadavre caché dans le placard, quoi. Donc, les mondes meilleurs, c'est les utopies, c'est marrant. Il y en a assez peu finalement en science-fiction. Maintenant, l'Uchronie, ça c'est une histoire avec un point de divergence. Donc on dit à partir de tel moment, ça s'est plus passé comme dans l'histoire réelle. Là, je sais pas si on est dans une Uchronie ou dans un univers parallèle en fait. Une Uchronie, ça implique que il y a un point de divergence. Je le nomme pas, moi, ce point. Je le dis pas à partir de 1723, il s'est passé ça, etc. On sait pas à partir de quand ça diverge. Peut-être que ça a jamais divergé, peut-être que c'est juste un monde parallèle, ou peut-être que ça a divergé, que je le dirai plus tard.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur votre actualité, peut-être?
Le tome 2 des sœurs Wilcox, dont j'ai pas encore le titre, devrait sortir au printemps. Parallèlement, j'ai une série de romans pour la jeunesse aussi, mais plutôt historique autour d'une famille juive qui s'appelle la saga Mendelssohn, dont il y a le tome 2 qui sort là ces jours-ci, donc début novembre, et j'ai un roman pour adultes qui sort en janvier, mais qui est de la littérature générale, enfin qui n'est pas classé en science-fiction, même s'il y a toujours un petit fond de science-fiction, et qui s'appelle Big Fan, qui est l'histoire d'un fan de Radiohead qui devient fou et qui pense que Radiohead annonce par ses chansons au monde la fin du monde.
C'est tout un programme. Il y a aussi la Brigade Chimérique qui sort régulièrement.
Alors la Brigade Chimérique, donc bande dessinée avec Serge Lehmann, co-scénariste et initiateur du projet, et Céline Bessonneau aux couleurs et évidemment Jess au dessin. C'est une série en 6 tomes. Effectivement, les 3 premiers sont déjà sortis. Le 3e vient de sortir il n'y a pas longtemps. Les 3 prochains vont sortir grosso modo en mars, juin et septembre. C'est-à-dire que l'année prochaine, à la même époque, la saga sera bouclée en 6 volumes. Avec 2 histoires par volume. Et puis après, on verra bien si on continue d'explorer cet univers-là. Nous, on a très envie de le faire. Ça dépend aussi du succès, en fait, de la BD, quoi.
Vous avez un site internet ?
Alors, j'ai un site internet et un blog. Le blog s'appelle Golden Pass, ça veut dire un peu le chemin doré. L'adresse est un peu compliquée, mais en gros, quand on tape Fabrice Collin dans un moteur de recherche, on tombe directement sur le site et le blog en deuxième position. Merci.